Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 7h à Kinshasa et 8h dans l'Est de la RDC. C'est l'heure de notre journal dont voici les titres. Résurrection de la société aérienne congolaise Air Congo. En tout cas, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, vient de signer des statuts portant création de cette société avec la compagnie Ethiopian Airlines Group. Il représentait le gouvernement congolais. On y revient dans un court instant. Insécurité en Ituri et plus précisément à Tchomia, Jean-Pierre Lacroix appelle les jeunes à travailler pour développer le milieu et surtout à rejeter les armes. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix s'adressait aux jeunes à risque lors de sa visite dans cette quantité. Notre invité est le député national Matata Ponyo Mapon. Il revient sur la situation de grève des enseignants des écoles publiques de l'État. Une situation préoccupante, note l'élu de Kindu qui a reçu les représentants des enseignants de sa circonscription électorale. D'abord, ce fait très particulier en RDC, c'est la création vendredi à Kinshasa des statuts portant création de la société aérienne Air Congo. C'est le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, représentant le gouvernement congolais, qui a procédé à la signature avec la compagnie Ethiopian Airlines Group. Selon le ministre du portefeuille, il s'agit d'une société d'économie mixte dont la RDC est actionnaire majoritaire. Il annonce l'arrivée de 2 avions dès le mois de décembre prochain. Tout de suite, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, est au micro de Kéline Kouté.
Une société que nous voulons efficace, dynamique, pour rencontrer la demande du transport à l'intérieur de la République démocratique du Congo et desservir aussi bien les pays africains avec une perspective d'aller au-delà de l'Afrique. Et donc, d'après une réunion que nous avons eue sous les auspices du vice-premier ministre, ministre des Transports, les premiers avions, 2 avions donc, arriveront à Kinshasa dès décembre prochain et 6 mois après, donc 2025, autour de juin, nous aurons 4 avions supplémentaires. Ces partenariats nous envoient à la coopération sud-sud va permettre à la République démocratique du Congo de profiter de la grande expérience d'Ethiopian Airlines et de permettre de transférer les compétences d'Ethiopian Airlines vers la République démocratique du Congo.
La société aérienne Air Congo, ancienne formule, est née au lendemain de l'indépendance du Congo, Léopoldville, en 1961. Elle va évoluer jusqu'en 1971, quand elle est devenue Air Zaïre. Une rencontre d'affaires qui n'arrive pas tous les jours, c'est celle des entrepreneurs belges et certaines femmes commerçantes de Kinshasa. Une occasion pour ces dames de présenter leurs divers produits, de vendre et de tisser des relations d'affaires lors de la visite des stands. Cette activité est organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et de services à son siège dans la commune de la Gombe. Les détails dans ce reportage de Plamedi Mbiavanga.
Parmi les produits exposés, on retrouve des sacs en raffia, des pannes, des jus à base de plantes, des foyers améliorés, de miel pur et autres articles. Quelques commerçants présentent leurs activités.
Ce que nous avons pu exposer, c'était le braise bio. Nous les fabriquons par les déchets que la majorité des personnes jettent. Nous, on les prend pour en fabriquer quelque chose d'important qui pourrait aider nous ainsi que la population.
Caroline Boulez est une femme d'affaires belge. Elle s'exprime sur l'importance de cette rencontre d'affaires dans une atmosphère conviviale.
Nous sommes spécialisés en tout ce qui est hygiène, entretien. On voit des gens très courageux et qui ont envie de bien faire, et de progresser et d'avancer. Il faut que ça aille dans le temps aussi, que ça dure longtemps. C'est ce qui m'anime, c'est la durabilité. C'est tous ensemble qu'on doit réussir les choses. C'est pas tout seul, chacun dans son coin.
Satisfait de la réussite de cet événement riche en contacts, Jean-Robert Issifoy, président de la Chambre des commerces, d'industrie et des services, s'est exprimé en ces termes.
Je voudrais remercier les autorités du pays qui nous ont donné les encouragements nécessaires pour organiser cet événement, voir les opportunités d'affaires qu'il peut y avoir dans notre pays pour les opérateurs économiques belges.
Interdiction formelle de vendre et d'acheter le cacao frais, une mesure prise par le gouverneur du Nord Kivu il y a quelques mois. Objectif, lutter contre le vol de cacao dans les champs et la criminalité autour de ce produit de grande valeur économique. Le chef de secteur de Benimbaou, dans le territoire de Beni, a justement rappelé jeudi cette décision aux vendeurs et acheteurs de ce produit. Léon Kakoulé Siviwe affirme que seuls les sites certifiés pour la vente et l'achat de cacao sont autorisés à être opérationnels dans son entité. Cela permettra ainsi une bonne surveillance et la traçabilité de tous les produits champêtres, particulièrement le cacao, poursuit-il. Il le dit au micro de Marc Marofimbo.
Ce n'est pas n'importe qui doit désormais vendre les cacao. Seuls les planteurs de cacao bien identifiés sont autorisés à vendre les cacao. Dans ce nouvel arrêté, il y a un article qui dit que le cacao frais n'est plus à vendre ni à acheter. Donc, les vendeurs et l'acheteur peuvent perdre le cacao frais car cela est vendu alors que c'est déjà interdit. Dans ce même arrêté, il est aussi strictement interdit d'acheter le cacao dans les champs, dans les rues, dans les maisons des habitations, même au marché. Le cacao doit s'acheter au dépôt, bien certifié avec tous les documents de l'État. Mais aussi, chaque planteur de cacao doit avoir sa carte d'identification de planteur. Cette carte doit certifier que lesdits planteurs a tel ou tel autre produit dans son champ. Ceci permettra à la surveillance de la bonne traçabilité de nos produits et les cas de vol de produits champêtres vont diminuer.
Insécurité en Ituri et plus précisément à Tchomia, Jean-Pierre Lacroix appelle les jeunes à travailler pour développer le milieu et surtout à rejeter les armes. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix s'adressait ainsi aux jeunes à risque de cette entité au bord du lac Albert, ceux-là même qui ont choisi d'apprendre un métier pour assurer leur survie. C'était lors de sa visite dans ce coin de l'Ituri où la MONUSCO a financé un projet d'aquaculture. L'objectif est de permettre à ces jeunes d'avoir une occupation rentable pour les protéger contre des tentations des groupes armés et du banditisme. Jean-Claude Loki pour les détails.
Ce sont 100 jeunes filles et garçons qui apprennent la pisciculture sur le lac Albert grâce à une nouvelle technique d'élevage de poissons en cage flottante. Ce projet, entièrement financé par la MONUSCO à hauteur de près de 5 000 dollars américains, vise à réduire les violences communautaires et à créer des emplois pour les jeunes et les femmes vulnérables. L'une des bénéficiaires salue l'accompagnement de la MONUSCO.
À cause de la guerre, nous avons perdu nos maris. Il y a beaucoup d'enfants qui sont restés orphelins. Et merci vraiment pour ce projet, parce que nous savions que ce projet va encore nous réconforter pour faire grandir les orphelins.
Il faut travailler dans le même but et rejeter les armes, car les armes sont un poison. C'est par ces propos que Jean-Pierre Lacroix encourage ces jeunes à faire le choix d'apprendre des activités génératrices de revenus, un choix dont doivent s'inspirer d'autres jeunes, estime-t-il.
C'est la direction à prendre. Offrir à ceux qui sont à risque ou vulnérables la chance de démarrer sur un nouveau pied et puis assurer eux-mêmes leur subsistance, profiter des ressources de ce lac merveilleux, de cette manière de faire avancer la paix.
Plusieurs observateurs souhaitent voir le programme de paix DDCS démarrer afin de permettre à de nombreux autres jeunes de déposer les armes et d'embrasser des activités lucratives pour assurer leur survie. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile, Radio Capi.
Et puis, triste sort pour plus de 100 personnes sinistrées de la pluie torrentielle qui s'est abattue jeudi dans le territoire de Tshilenge, au Kasaï oriental. Elle passe la nuit à la belle étoile. Les dégâts des pluies ont également touché certains centres de santé et autres écoles. Mais alors, aucune assistance n'est envisagée en faveur de ces familles. Des explications avec Esther Ndalafina.
La pluie torrentielle qui s'est abattue la nuit de jeudi dans le territoire de Tshilenge a causé des dégâts matériels importants. Les sources sur place affirment que plus de 40 maisons se sont écroulées, laissant ainsi plusieurs personnes sans abri. Quelques familles vivent désormais chez leurs voisins et d'autres sont dans des familles d'accueil. Selon la même source, cette pluie a également emporté les toitures de quelques centres de santé et de 5 écoles. Elle a aussi tué plusieurs bêtes domestiques. Contactée, Béatrice Ndelela, bourgmestre de la commune rurale de Tshilenge, prévoit d'informer sa hiérarchie pour envisager une assistance en faveur des familles sinistrées.
On a enlevé les tôles jetées quelque part. Même chez moi, la toiture est pliée. Le vent était vraiment très fort. Toutes les tôles de la toiture de la maison est sur l'arbre, percée là-bas, irrécupérable. Cela nous donne à la belle étoile. Nous devons écrire pour qu'on puisse assister quand même les gens. Il y aura encore d'autres. Où seront-ils?
D'autres sources signalent que les érosions de la pluie de jeudi ont rempli plusieurs ruisseaux, empêchant ainsi l'accès aux champs de quelques agriculteurs. Esther Ndalafina Mbujumai, Radio Okapi.
Secteur santé à présent, lutte contre l'épidémie de monkeypox en RDC. L'Organisation mondiale de la santé met la main dans la poche et livre 33,5 tonnes de fournitures médicales et d'équipements d'urgence. C'était vendredi dernier. Il s'agit de la plus importante expédition de fret aérien de l'OMS dans la région africaine depuis le début de l'année. Cette livraison fait suite à un premier envoi deux semaines auparavant de plus de 14 tonnes de fournitures et d'urgence afin de soutenir les mesures de prévention et de contrôle des infections ainsi que les soins cliniques dans le cadre de l'épidémie actuelle. Ces deux livraisons contribueront de manière significative à assurer les services de prévention et de traitement des infections dans le pays au cours des 3 prochains mois. Et c'est justement pour lutter efficacement contre cette maladie qu'un dispositif de contrôle sanitaire vient d'être installé à l'aéroport international de Njili. Sa mission est de surveiller l'épidémie de la variole du singe qui sévit en République démocratique du Congo selon l'ACP. Sur instruction de notre hiérarchie, il nous a été demandé de renforcer le contrôle sanitaire ici au niveau de l'aéroport international de Njili. Nous y avons installé un dispositif de contrôle sanitaire au niveau des vols internationaux et domestiques, a expliqué le chef de poste du programme national de l'hygiène aux frontières, Dr Claude Tati, à l'ACP. On en arrive à cette cacophonie autour du réajustement des salaires des enseignants au Nord Kivu. Ceux du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, affirment que les enseignants des territoires de Rutshuru et Masisi n'ont pas encore reçu la somme de 50 000 francs congolais de réajustement de la paie du mois d'août. D'après Fidel Bishoko, secrétaire provincial du SIECO Nord Kivu, la Caritas qui est chargée de la paie des enseignants à l'intérieur indique avoir reçu les listes, mais l'argent n'est pas transféré par le gouvernement sur le compte de la Caritas. Pour SIECO, ce retard frustre davantage les enseignants de ces territoires qui doivent se déplacer avec tous les risques sécuritaires. Ce syndicaliste demande au gouvernement de régler cette préoccupation. Fidel Bishoko l'a dit au micro de Sifa Maguru.
Nous constatons qu'il n'y a que la prime de gratuité, les arriérés de 2 mois de la prime de gratuité des enseignants des écoles primaires et publiques qui est disponible. Malheureusement, les 50 000 francs destinés à être donnés pour tous les enseignants et tous les agents au niveau de Rutshuru et Masisi, ils n'ont rien.
Votre plaidoyer est adressé à qui?
Au gouvernement pour qu'il puisse donner à l'IFOD l'enveloppe totale contenant aussi les 50 000 francs de réajustement du salaire pour tout le monde. Il y a risque qu'on paye cet argent au mois de septembre et voler l'argent du mois d'août qui était destiné aux enseignants de Rutshuru et Masisi. C'est pourquoi nous alertons les autorités au niveau national que ces enseignants, l'argent ne doit pas être détourné. C'est un droit qu'on leur paye avant la paie du mois de septembre.
Voilà, c'est bien triste. Rappelons que ces enseignants des écoles primaires du secteur public de la zone éducationnelle Nord 1 et Nord Kivu 1 et 3 poursuivent la grève sèche. Une assemblée générale évaluative est prévue ce lundi.
Actualité internationale.
Washington a exhorté samedi 21 septembre les Américains présents au Liban à quitter le pays tant que des vols commerciaux restent disponibles en pleine intensification du conflit entre Israël et le Hezbollah. En raison de la nature imprévisible du conflit en cours entre le Hezbollah et Israël et des récentes explosions à travers le Liban, y compris à Beyrouth, l'ambassade américaine exhorte les citoyens américains à quitter le Liban tant que des options commerciales restent disponibles, a annoncé le département d'État.
L'invité.
Notre invité est le député national Matata Ponyo Mapon. Il revient sur la situation de grève des enseignants des écoles publiques de l'État. Une situation préoccupante selon l'élu de Kindu qui a reçu les représentants des enseignants de sa circonscription électorale. Matata Ponyo Mapon s'entretient avec Florence Kizalungu. Suivez.
Honorable Matata, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kindu, vous trouvez il y a des enseignants qui sont en grève, surtout des écoles publiques de l'État. Et aujourd'hui, vous avez décidé de réunir leurs représentants. Qu'est-ce qui vous a motivé?
Bon, vous savez, je suis le seul élu de la ville de Kindu au niveau national. Et vous savez aussi l'amour que me porte la population de Kindu d'une manière particulière et celle de la province d'Imanima d'une manière générale. Donc, je ne pouvais pas ne pas me préoccuper de cette situation qui affecte tous les parents, étant donné que leurs enfants qui étudient dans les écoles primaires et secondaires publiques ne vont pas à l'école, parce que ces écoles, globalement, sont en grève. Je les ai reçus, donc les responsables syndicalistes, et ils m'ont expliqué qu'effectivement, ces écoles publiques ne fonctionnent pas. Et cela fait plusieurs semaines. Les revendications sont celles que vous connaissez en tant que spécialiste de la communication. Les salaires sont dérisoires. Et ces mêmes salaires ne sont pas payés régulièrement, ce qui n'était pas le cas quand j'étais Premier ministre et ministre des Finances. Vous le savez, les salaires étaient payés le 15. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et la réalité, c'est que la grève continue. Et c'est inquiétant pour moi qui ai étudié ici, dans une école primaire publique, dans une école secondaire publique, et étant élu aujourd'hui comme député national.
Alors, la situation est inquiétante. Qu'est-ce que vous, les élus, vous faites, que ce soit au niveau national que provincial, pour arriver à aider le gouvernement à trouver des solutions idoines par rapport à ces problèmes?
Bon, écoutez, en tant que député national, mon rôle, c'est de porter haut les revendications de la population. Donc, je n'ai pas de solution à donner en tant qu'individu, mais mon rôle, c'est de pouvoir amener ces revendications au niveau national et convaincre le gouvernement de trouver des solutions rapides, parce que c'est inacceptable de voir des enseignants qui sont déjà pas très bien payés, ne pas toucher leur salaire régulièrement, avoir des arriérés de salaire, et ce n'est pas acceptable, et je pense que je vais porter ma voix au niveau de l'Assemblée nationale.
Étant donné que cette situation affecte négativement les enfants qui sont considérés comme les dirigeants de demain, en recevant les représentants des enseignants, qu'est-ce que vous leur avez dit alors?
Bon, écoutez, moi, vous pouvez certes croire, j'ai demandé à ce qu'ils puissent éventuellement rouvrir les salles de classe pour que les jeunes puissent commencer à étudier, quitte à ce que leurs revendications soient portées au plus haut et que la solution soit trouvée. Parce que garder le jeune à la maison, vous pouvez vous imaginer, ce n'est confortable ni aux enfants, ni aux parents qui veulent voir leurs enfants étudier. Donc, je les ai sensibilisés sur cette question. Mais, comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est que la solution soit trouvée au plus haut niveau par le gouvernement congolais.
Monsieur Matata, pensez-vous que votre voix sera entendue, étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé à ces enseignants de reprendre les chemins de l'école, mais ils restent catégoriques?
Bon, écoutez, madame, je ne sais pas vous dire si mes propositions ou mes recommandations seront acceptées. Je ne suis pas prophète, mais je fais mon travail, je fais mon devoir. C'est celui de proposer, mais je reste tout à fait persuadé que leurs revendications sont pertinentes. Leurs demandes sont fondées, mais nous devons trouver le juste milieu. Donc voilà, je fais comme les autres ont fait, je ne pouvais pas faire le contraire.
Étant leur représentant, qu'est-ce que vous dites au gouvernement qui vous attend en ce moment?
Bon, écoutez, le gouvernement doit examiner rapidement cette situation, parce que nous sommes presque à la fin du mois de septembre et les enfants n'ont toujours pas repris le chemin de l'école dans le secteur public. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas acceptable. Le gouvernement se doit de trouver une solution pour que les enseignants rentrent à l'école pour rouvrir les portes et que nos enfants qui sont dans le secteur public commencent à étudier. Voilà.
Honorable Matata Ponyo Mapon, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est ici que s'arrête ce journal. Le prochain intervient à 8h heure de Kinshasa. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également à Jude Mister Bilanda, à Jacques Molima et à Polydor Basunga.